I don't want to speak for all black women because all black women are different.
But la peau comme le chocolat, caramel, beurre salé, tigrelle, panthère, féline.
Ouais, mais moi, j'aimerais bien, tu sais, me taper une femme noire parce que elle maîtrise.
That's the most insulting, ridiculous thing I've ever heard in my life.
Et si tu as en plus des courbes généreuses, ça vient accentuer la donne. C'est comme si je donne raison aux stéréotypes.
Les propos qui vont plus m'atteindre, c'est quand on entre dans une subtilité plus profonde.
C'était bon ce que vous avez fait. Bravo, vous sortez d'où?
Vous, madame, vous n'avez pas besoin de me dire dans quoi vous enseignez. Vous enseignez les sciences infirmières.
Nous sommes les nounous et nous sommes les mamies. Et on voudrait que nous ne soyons que ça. C'est ça le problème.
Et du coup, il y a plein d'enjeux qui rentrent en gang. Et tant qu'on ne sera pas capable de déconstruire ces discours-là, on n'avancera pas en tant que société.
À cause de ça, je trouve que la femme noire, bien souvent, on oublie notre beauté.
Ma mère m'a toujours montré des filles noires en me disant « Waouh, elle est magnifique ».
Je trouve que c'est propre à la femme noire de savoir aussi se réapproprier tout ça.
Je me suis dit « Je ne vais pas écouter ce que la société veut faire de moi ».
Je reprends ma force, je reprends mon courage, je reprends mon histoire. Avec nous, ça s'arrête.
And I realized how profoundly I had been changed, that I could never see the world the same way again.
Tout ça, c'est nous aujourd'hui, femmes noires d'Amérique.
Ce que vous venez d'écouter est la bande-son du film « Le mythe de la femme noire », un film dont tout le monde parle au Québec en ce début de mois de février. Un documentaire autour des stéréotypes entourant les femmes noires, la Jezabel, un genre de femme fatale et hypersexualisée, la nounou plantureuse ou encore la femme noire en colère. À travers les témoignages de 21 femmes venues d'horizons divers, on plonge dans ce film dans une réalité encore présente en 2023. Hélas, trois fois hélas, a-t-on envie de dire. Je discute de ce film avec sa réalisatrice, Ayana Oshun. J'ai fait un tour dans l'histoire, Ayana, et je suis reparti en 2010. En 2010, il y a eu les Mains Noires,
oui.
Procès de l'esclave incendiaire. Film documentaire que tu as réalisé qui portait sur le procès de Marie-Joseph Angélique.
Oui.
En 2020-21, qui sera en 2023, il y a donc le mythe de la femme noire.
Oui.
Donc quasiment, on va dire quoi, un bon 10 ans pour faire un second documentaire.
Exact.
La question c'est, d'où est venue l'envie de faire ce film-là?
L'envie m'est venue, ça fait très longtemps. Tu sais que je travaille aussi comme comédienne ici, et puis les rôles pour lesquels je devais auditionner et ou qu'on m'attribuait correspondaient tous à un stéréotype très particulier, un type de rôle très particulier. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on me donne toujours les trois mêmes stéréotypes à jouer? Et j'ai demandé la question à d'autres comédiennes autour de moi, des comédiennes noires ou racisées, puis elles m'ont dit qu'elles vivaient aussi, grosso modo, le même phénomène. Parce que j'aime beaucoup faire de la recherche, je me suis mis à lire là-dessus, à lire sur les stéréotypes associés aux femmes noires. Puis plus je lisais, plus je remontais dans le temps, dans des siècles passés, jusqu'à réaliser que ces stéréotypes-là avaient été inventés de toutes pièces il y a plusieurs siècles à l'époque de l'esclavage et avaient parcouru le temps jusqu'à se retrouver aujourd'hui dans les arts, cinéma, télévision et tout ça. Alors j'ai voulu faire un documentaire pour non seulement voir c'était quoi ces stéréotypes, quelles étaient leurs provenances dans l'histoire avec un grand H, et surtout montrer les conséquences que ces stéréotypes-là avaient dans la vie des femmes noires aujourd'hui. Dans le film, il y a 21 femmes qui racontent leur 21e siècle, qui témoignent de c'est quoi les stéréotypes, et surtout, qu'est-ce que ça fait dans leur vie, et comment elles ont réussi à créer, malgré tout, leur place au soleil.
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, je dirais, était déjà connu, était déjà documenté? En quoi est-ce que, pour poser la question autrement, en quoi est-ce que celles et ceux qui vont aller voir le mythe de la femme noire verront quelque chose de nouveau?
En faisant des recherches, ce que j'ai réalisé, c'est que tous ces stéréotypes-là avaient été étudiés, par exemple, dans des grandes chaires universitaires, et qu'ils avaient même donné des noms à ces stéréotypes-là. Donc, on parle de Jézabel, la mamie ou la nounou, et la femme noire en colère. Puis même si ces informations-là existaient à l'extérieur, moi, en grandissant, je n'ai pas eu accès à ces informations-là. Donc, oui, l'information est là. On vit à une époque où c'est très facile de se renseigner sur plein de choses, mais moi, adolescente, cette information-là, je l'ai pas eue et j'aurais voulu avoir un film, disons, qui vulgarise ces stéréotypes pour moi. Puis cette information-là, je l'ai surtout trouvée du côté anglophone. Du côté anglophone, ils ont fait de vastes recherches là-dessus. Mais du côté francophone, il y avait quasiment rien. Donc, j'ai voulu faire ce film d'abord et avant tout pour l'adolescente que j'ai été. Et j'ai voulu le faire en français pour des femmes d'ici et des femmes de la francophonie en mettant de l'avant 21 femmes qui avaient des choses à dire là-dessus. Parce que je sais très bien qu'en grandissant ici, c'est plutôt difficile de trouver des modèles dans ce qu'on appelle les mainstream medias. J'ai voulu montrer que ces femmes-là existent chez nous, au Québec. Elles viennent de toutes sortes d'origines, pleines provenances. Elles viennent aussi bien, originellement, je veux dire, de certains pays d'Afrique, de certains pays des Caraïbes, d'Amérique du Sud et de l'Europe. Et en mettant ces femmes-là de l'avant, je voulais mettre de l'avant une information facilement accessible et pas juste rester dans l'intellectualisation, mais de montrer vraiment les vraies conséquences en mettant des mots sur ce qu'on a vécu. Mmh. Tu sais, Cyril, par exemple, au RIDM, il y a des femmes qui sont venues me voir puis qui m'ont dit « Merci parce que je sais que je vivais ces choses-là, mais j'avais pas mis des mots là-dessus. Puis j'avais pas réalisé à quel point ces stéréotypes ou ces images avaient des conséquences pour ma vie privée, personnelle, intime, mais aussi dans ma vie professionnelle. C'est des choses qu'on voit, qu'on vit, on donne des termes comme ça, discrimination et tout ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça.
Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que toi, en tant que femme noire, mais en plus en tant que réalisatrice, en tant que comédienne, donc qui connaît un peu, là on va rester dans l'industrie des arts, du cinéma, de la télévision, quoique les femmes viennent d'horizons complètement différents, qu'est-ce que toi tu as découvert en interrogeant ces 21 femmes-là?
Ce que j'ai découvert, c'est tout ce qui concerne la dernière partie du film. C'est-à-dire qu'une fois que tous les stéréotypes ont été dits, expliqués, décortiqués, déconstruits, puis qu'on explique les conséquences que ça a, par exemple, dans le système de justice, dans la vie privée, etc. Une fois que tout ça est expliqué, ce qui m'a frappé, c'est quand on a commencé à parler de santé mentale. Ça, c'est une question que je n'avais pas quand j'interviewais ces femmes-là. Et toutes, naturellement, m'ont parlé des problèmes de santé mentale qu'elles avaient eus ou que des gens extrêmement proches d'elles avaient eus. Et ce qui m'a touchée là-dedans, c'est que 80% des femmes interviewées m'ont dit avoir passé à travers une dépression ou un problème de santé mentale. Et j'ai réalisé à quel point ce sujet-là était pas du tout exposé, était tabou, bien sûr, dans les communautés noires. Mais j'avais pas réalisé à quel point c'était présent. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Bien sûr, on sait que ça existe, mais à un moment donné, un de mes personnages, Abisara Machold, qui est la créatrice des salons Inheritance, elle dit on se rend pas compte à quel point les problèmes de dépression, de burn-out, de santé mentale en général, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Et on ne sait pas à quel point. Et on essaie de s'en sortir, mais que parce qu'on n'en parle pas, il y a beaucoup de gens qui implosent en silence. Et dans le film, il y a Dorothée Alexandre qui donne l'exemple d'une de ses amies qui s'est enlevé la vie et tout l'impact que ça a eu pour elle dans sa vie et dans la vie de d'autres personnes autour d'elle également. Mmh.
Les problèmes de dépression et de santé mentale, c'est le tribut à payer pour être ce que tu appelles des femmes fortes et performantes.
Oui, ben oui. Ben, en fait, la maladie mentale, c'est une maladie. Donc, oui, il y a des femmes fortes et performantes qui craquent, mais il y a tout simplement des femmes qui essaient de vivre dans la vie de tous les jours, qui essaient de fonctionner, mais qui sont aux prises avec de telles pressions, aussi bien externes que internes, qu'elles aussi, elles finissent par imploser.
Comment s'est fait le choix de ces femmes-là? Est-ce que tu avais des critères bien spécifiques ou ça a été le fruit du hasard?
Non, ça n'a pas été le fruit du hasard. J'ai travaillé avec une équipe de recherchistes et on s'est mis à interviewer de nombreuses femmes. Qui étaient des leaders de différents secteurs. Parce que pour moi, c'était important d'avoir des femmes qui proviennent de différents milieux, qui avaient différents âges, différentes manières de porter leurs cheveux, parce que je voulais vraiment montrer une diversité de femmes. Donc, on est allé interviewer. On a vraiment interviewé énormément. Donc, la sélection, puis même au niveau du tournage du film, on avait interviewé plus de monde que ça. Et c'est en montage qu'on a juste sélectionné les 21 qui sont là. Pour moi, c'est important qu'elles, bien sûr, qu'elles connaissent le sujet, qu'elles aient des choses à dire là-dessus, et aussi qu'elles soient pas dans la victimisation, mais que ce soit des héroïnes, qu'elles soient dans l'empowerment, comme on dit en anglais. Donc, pour moi, ce que je voulais, c'est montrer des femmes qui soient des modèles, qui soient des exemples, puis qui sont passées par le feu. Comme j'ai dit, 80% ont vécu des dépressions et malgré tout, elles sont là où elles sont aujourd'hui parce qu'elles ont combattu, parce qu'elles ont demandé de l'aide, parce qu'elles ont réfléchi, parce qu'elles ont fait un travail extrêmement important sur elles pour pouvoir arriver là où elles sont aujourd'hui.
Mmh. Aux rencontres internationales du documentaire de Montréal où le film a été présenté en première, oui. Ce film-là a reçu le prix Magnus Isaacson. Et dans le propos du jury, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Bon voilà, c'est un film coup de cœur, mais ils disent « Il est triste par contre d'encore constater la nécessité d'un film qui fait état d'une réalité qui ne devrait plus exister. » Je m'arrête à ça. On est en 2022, on sort de 22, on rentre en 2023. Est-ce que ça existe encore aussi fortement que ce que ton film laisse présager, laisse voir? Est-ce que ces situations, tu penses qu'elles sont encore si présentes?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est un film que j'ai tourné autour de la COVID, donc on parle autour de 2020, et la plupart des entrevues ont été réalisées à ce moment-là, et en regardant le film encore au RIDM en 2022, on se rend compte que, bien sûr, ces situations-là existent, bien sûr, parce que elles prennent leurs sources d'histoires passées. On parle de 16e, 17e siècle. Donc, c'est pas parce qu'on est rendu au 21e siècle que ça a changé. Il y a tout un travail à faire là-dessus. On parle du rouleau compresseur historique qui nous dit que les femmes noires sont soit des femmes hypersexualisées, soit des femmes qui, des nounous, donc qui prennent soin des autres, ou des femmes en colère. Pour se sortir de ces stéréotypes-là, il faut se rendre compte qu'on se bat contre des pressions extérieures. Donc, de dire qu'au 21e siècle, pourquoi ça existe encore, pourquoi la discrimination existe encore, pourquoi il y a encore des guerres et tout ça, c'est pas l'argument de pourquoi ça existe encore. Mais ça existe encore parce qu'on n'a pas fait le travail, tout simplement. J'espère que ce documentaire-là va être un des outils pour faire progresser les mentalités. Parce que on dit bon, il faut lutter contre la discrimination, le racisme et tout ça. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? Faire de grosses campagnes pour dire c'est pas bien de dire aux Noirs qu'ils sont moins qu'eux. Ok, c'est une chose. Mais la lutte doit se faire de manière beaucoup plus. Je veux dire, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Que dans la vie de tous les jours, par exemple, j'étais à la pharmacie l'autre jour pour m'acheter un lip gloss et la vendeuse était autour de moi. Qu'est-ce que je veux? Attention, parce que y a des femmes qui volent des lip gloss en échantillon. Puis elle me regardait comme si c'est ça que j'étais venue faire.
c'est fou, on a du mal à y croire. Hein?
Oui, oui, mais ça, c'est des choses que nous vivons régulièrement. Comment on se bat contre ça? Puis si je lui avais dit qu'elle est raciste, elle aurait dit « Ah, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. » Je veux dire, c'est tellement pernicieux que au-delà des grandes campagnes, ça prend vraiment des discussions profondes et des réalisations extraordinaires, une prise de conscience. Puis ce genre de lutte-là, on le fait, bien sûr, à l'intérieur des communautés noires, mais c'est quelque chose qu'il faut faire tout le monde ensemble. Ce qui a fait la force de Black Lives Matter en 2020, c'est que c'est tout le monde qui a marché dans les rues pour réclamer une certaine justice sociale. Donc, je pense que la lutte doit se faire à tous les niveaux, au niveau de tous les peuples. Mmh. Et tous les sexes, bien sûr.
Sauf si j'ai mal compris, à un moment donné, tu parlais de la pression que subissent les femmes noires et tu as dit pression externe et interne.
Oui.
Revenons sur interne, c'est-à-dire?
Interne, c'est-à-dire que, je vais parler de moi. Mmh. Moi, en grandissant, tu sais, j'essaie de me bâtir une certaine identité et j'avais l'impression que dans la société dans laquelle je vivais, puis ma mère me le faisait sentir, c'est que je devais être performante, que je devais, par exemple, à l'école, être la meilleure. Donc, ce désir de perfectionnisme, il vient d'où? D'après moi, il est venu d'un sentiment que, ben attention, parce que t'es une femme et parce que en plus t'es noire, il fallait que tu prouves. Ça, c'est on l'entend souvent dans les communautés noires. Il faut que tu prouves que tu es aussi bonne que. Donc, il faut que tu travailles tellement fort parce que au départ, tu pars pas à la même ligne de départ. Il faut que tu travailles super fort pour prouver à la société que tu es aussi bonne que. Donc, la pression interne vient de là. Pour moi, c'est venu de là. C'est devenu du terme que, OK, donc je ne suis pas assez à la hauteur. Donc, il faut que je travaille 5 fois plus fort pour performer, puis à la limite pour être aimée.
Il y a un traitement différencié entre les hommes noirs et les femmes noires, tu penses?
Qu'est-ce que tu veux dire, traitement différencié?
C'est-à-dire que au niveau de la société, au niveau de la pression vécue, tu penses qu'il y a plus d'attente du côté de la femme noire que où elle vit plus de pression que l'homme noir?
Non, je pense que c'est pareil. Je pense que les pressions sont un peu différentes dans le sens que une femme a des choses très spécifiques aux femmes, mais les hommes noirs aussi sont sujets à toutes sortes de stéréotypes, sont sujets à soit aussi l'homme très très sexuel ou l'homme violent ou le paresseux ou l'homme qui est toujours heureux puis qui rit puis la vie est belle, je veux dire. Ces stéréotypes-là sont aussi extrêmement présents. Celui qu'on voit le plus dans les médias, par contre, c'est celui du criminel. Et ça aussi, ça amène des pressions extrêmement fortes pour les hommes noirs. Mmh. Donc, je pense que non, c'est pas plus facile ou plus difficile d'être un homme ou une femme noire. Je pense que il y a des choses que nous avons en commun, puis que ce serait, il faut qu'on marche ensemble, qu'on lutte ensemble, puis qu'on se soutienne ensemble pour mettre fin aux difficultés que nous vivons.
Mmh. Est-ce qu'un homme aurait pu faire ce film?
Est-ce qu'un homme aurait pu faire ce film? Mmh. Probablement, mais je ne sais pas s'il aurait eu ce témoignage-là, dans le sens où le fait que ce soit une femme noire de l'autre côté de la caméra qui leur pose ces questions-là, peut-être qu'il y a eu une espèce de « Ah, ben je sais qu'elle me comprend à 100%. » Un homme noir aurait pu poser ce genre de questions-là. Je suppose que ça aurait eu plus rapport à la race, mais d'aller dans les spécifications de femmes en particulier, je pense que cette ouverture-là s'est aussi faite parce que c'était une femme derrière la caméra.
Le mythe de la femme noire, Ayana Oshun, tu emmènes ce film-là, tu l'emmènes où?
Montréal, c'est à partir du 10 février au cinéma Beaubien, où je vais être là avec l'équipe du film pour le lancement en salle à Montréal. Je serai aussi à Québec et à Sherbrooke. Et le 11, au Quartier Latin, je serai là également pour un question-réponse.
OK. Là, on est donc en autre local.
Exactement.
Et pour l'après?
Ben pour l'après,
je te pose la question pour l'après parce que ce film-là, et tu parlais justement du fait qu'au niveau de la francophonie, oui, on avait très peu, c'est très peu documenté ce genre de choses. Ce film, c'est un film qui s'adresse quasiment à la femme noire un peu partout. Est-ce qu'il y a déjà des festivals de prévus, des choses comme ça?
Oui, c'est en cours, étant donné que c'est pas encore officiel, bon, je peux pas le dire, mais oui, c'est en cours au niveau de la francophonie, donc on parle de l'Afrique francophone, de l'Europe et des Caraïbes, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ou qu'est-ce qu'on souhaite à ton film?
Ben, on souhaite à mon film qu'il voyage, qu'il soit vu, qu'il touche le cœur des gens, qu'il soit un outil de discussion Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai fait, pour qu'on se rassemble et après qu'on parle. J'aurais pu faire un film de 4 heures de temps, tellement qu'il y avait des choses à dire. Mais je pense que le film d'une heure et demie tel qu'il est, ça peut vraiment servir d'un outil puissant pour faire avancer les consciences de tout le monde. On souhaite aussi que j'attende pas un autre 10 ans pour faire un autre film. C'est très difficile de faire un deuxième film. Ça fait une dizaine d'années que j'essaie de le faire. Maintenant, il sort enfin. Puis, j'espère que pour les prochains, ça va être plus rapide.
J'ai réservé la dernière question pour la comédienne. Quels sont les projets d'Ayana Oshun en tant que comédienne en ce moment?
Ben, comme comédienne, je tourne. Donc, il y a une série qui va sortir cet automne. À TVA, qui va être une série, ça va être quelque chose, ça va s'appeler Révolte. Et je joue le rôle d'une réfugiée haïtienne qui est passée par le chemin Roxham. Donc ça va faire du bruit, je pense. C'est une très bonne série réalisée par Louis Choquette et produite par Haïtios. Sinon, présentement, je suis sur un film de François Péloquin. Voilà, donc les choses continuent.
J'espère que ce n'est pas dans un rôle ni de Jezabel, ni de Nuno, ou encore de femme noire en colère.
Non, exactement. Et puis, ce qui était bien, c'est que Haïtios et le groupe TVA, ils m'ont engagée, avant que je joue dans la série, ils m'avaient engagée comme consultante. Dans le sens où, parce que la communauté haïtienne était très représentée dans la série, ils m'ont engagée comme consultante haïtienne, justement pour savoir si ce qui était décrit dans la série était stéréotypé ou pas, quel changement il pourrait y avoir et tout ça. Donc, on verra ce qui a été retenu, mais déjà qu'il y a eu cette ouverture-là, ça, c'est nouveau au Québec. Puis, je sais qu'il y a d'autres films où de plus en plus ça arrive, où ils font appel aux gens d'une certaine communauté pour participer au contenu.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Au micro avec Siek. Mon nom est Cyril Ekwala.